La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour, ici c'est Gaël Cozandet, je suis pasteur de l'Église Adventiste. Cette semaine, quelqu'un m'a envoyé un texte biblique que l'on trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 16 à 18. Je lis. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce qui est la volonté de Dieu pour vous dans votre vie avec Jésus-Christ. » Ma première réaction a été de me demander si ce texte était bien approprié pour la situation actuelle. Invité à être toujours joyeux, à remercier Dieu en toutes circonstances au milieu d'une pandémie mondiale, est-ce que c'est pas un peu un manque de sensibilité par rapport à ceux qui pleurent à cause de la perte d'un être cher ou ceux qui subissent des difficultés économiques? Ou encore, est-ce que ce n'est pas une forme de déni, une tentative d'autosuggestion pour se convaincre que tout va bien quand la réalité est tout autre? Et pourtant, deux éléments m'interpellent dans cette invitation. Le premier, c'est ce que dit Paul à la fin de son injonction. « Voilà ce qui est la volonté de Dieu pour vous dans votre vie avec Jésus-Christ. » Souvent, nous demandons à Dieu quelle est sa volonté pour notre vie, quels sont ses plans. On se dit que s'il nous montre quelle voie suivre, quel métier, quelle compagne ou compagnon de route choisir, quelle décision financière prendre, alors nous serons tranquilles. Mais force est de constater que la Bible est quasi muette sur ces sujets. Elle se contente de nous inviter à faire confiance en Dieu et à choisir. Par contre, nous trouvons dans la Bible des indications très claires de la volonté de Dieu, mais pas nécessairement celle que l'on voudrait. Le texte que nous venons de lire en est un exemple. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce qui est la volonté de Dieu pour vous dans votre vie avec Jésus-Christ. » Ah, mais quand même, est-ce que c'est bien approprié de dire ça en ce moment? Lorsque je pense à Jésus-Christ, je vois un homme qui était capable d'être profondément joyeux et reconnaissant dans sa relation avec Dieu, son Père, et en même temps profondément compatissant avec ceux qui souffrent. Il riait avec ceux qui rient, et il pleurait avec ceux qui pleurent. Peut-être que les deux ne sont pas incompatibles. Un deuxième élément m'interpelle dans l'injonction de Paul. C'est la vie de l'homme lui-même. Celui qui a écrit ces mots, c'est un homme qui a été lapidé une fois, qui a fait naufrage trois fois, s'est fait battre à coups de bâton trois fois et a reçu cinq fois les 39 coups de fouet. Donc entendre les mots « remercier Dieu en toutes circonstances » de la part d'un tel homme, ça a quand même un certain poids. Soit Paul était un doudin complètement déconnecté de la réalité, soit il avait découvert un secret qui le connectait à une autre réalité. Il y a une histoire de la vie de Paul qui me semble illustrer parfaitement à la fois ce que Paul considérait être la volonté de Dieu pour lui et son rapport joyeux et reconnaissant à la vie. Le récit de cette histoire nous est relaté dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Pour rappel, Paul est cet ancien théologien juif qui avait persécuté les chrétiens jusqu'à sa propre conversion. Après quelques années de réflexion et de service dans la ville d'Antioche, en Syrie, Paul a été envoyé comme l'un des premiers missionnaires pour partager le message de Jésus-Christ. Lors de son premier voyage, il a fondé plusieurs églises ouvrant l'évangile aussi bien aux juifs qu'aux non-juifs. Dans le chapitre 16 des Actes, nous trouvons Paul dans son second voyage, accompagné de l'apôtre Silas. Avec une petite équipe, il visite les églises déjà fondées précédemment pour voir comment elles se portent. Mais Paul est un homme passionné, porté par un élan irrésistible, et il ne désire qu'une seule chose, c'est de porter l'évangile plus loin, là où personne n'en a encore entendu parler. Et là, il y a un problème. Nous lisons dans Actes, chapitre 16, à partir du verset 6. « L'Esprit Saint les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie, de sorte qu'ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Quand ils arrivèrent près de la Mysie, ils eurent l'intention d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et se rendirent au port de Troas. » Ça, c'est étonnant. Paul et son équipe avaient déjà rencontré de l'opposition de la part d'habitants mécontents, Mais là, c'était l'Esprit Saint lui-même qui les empêchait d'évangéliser. Le texte ne dit pas comment l'équipe recevait ces instructions. C'était peut-être des convictions intérieures ou des prophéties. Toujours est-il qu'au lieu d'aller vers des villes peuplées comme Éphèse, les missionnaires sont obligés de marcher 600 km à travers des régions peu habitées sans pouvoir accomplir cette mission qui leur tient tant à cœur. On peut imaginer la frustration et les questionnements des voyageurs. Nous avons parfois l'impression que dans la Bible, les pionniers de la foi conversaient directement avec Dieu, qu'ils savaient toujours quoi faire. Et pourtant, les récits montrent plutôt qu'ils devaient souvent tâtonner et avancer longtemps sans savoir quelle voie prendre. Cela peut nous rassurer dans nos errances personnelles. Non, on n'est pas nécessairement un mauvais croyant lorsqu'on ne sait pas quelle voie suivre. Il nous faut continuer à chercher, à prier, à écouter Dieu et à marcher, comme le faisaient les apôtres. Finalement, Paul et son équipe arrivent dans un port au bord de la mer. De là, ils peuvent prendre un bateau pour de multiples destinations. Mais où aller? Voilà la suite de l'histoire à partir du verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Il vit un Macédonien debout qui lui adressait cette prière. « Passe en Macédoine et viens à notre secours !» Aussitôt après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions convaincus que Dieu nous avait appelés à porter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée. Les voyageurs ont dû être soulagés et encouragés. Enfin, ils avaient une direction claire. Enfin, ils savaient où ils devaient aller. Dans sa vision, Paul avait reçu l'appel d'un habitant de la province romaine de Macédoine, qui se trouve aujourd'hui vers le nord de la Grèce. Alors, ni une ni deux, il monte dans un bateau pour faire le trajet de 2 jours jusqu'à la capitale de la province, une ville appelée Philippe. L'évangéliste Luc, qui raconte l'histoire, rapporte qu'après leur arrivée, ils ont passé plusieurs jours dans la ville. Ils ont dû prendre du temps pour se reposer et prier pour recevoir d'autres indications. Comme à leur habitude, les évangélistes ont cherché s'il y avait des Juifs dans la ville. C'était leur réseau habituel puisqu'ils partageaient la même foi et qu'ils venaient leur annoncer le Messie annoncé par les textes lus chaque sabbat dans les synagogues. Au verset 13, nous lisons « Le jour du sabbat, nous sommes sortis de la ville pour aller au bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient assemblées. L'une de ces femmes s'appelait Lydie. Originaire de la ville de Thyatire, elle était marchande de précieuses étoffes rouges et reconnaissait l'autorité de Dieu. Elle écoutait. Or le Seigneur lui avait ouvert le cœur pour la rendre réceptive aux paroles de Paul. Elle fut baptisée ainsi que sa famille. Puis elle nous invita en ces termes. « Si vous estimez que je crois vraiment au Seigneur, venez demeurer chez moi. » Et elle nous obligea à accepter. Paul avait reçu la vision d'un homme l'appelant à venir en Macédoine. Et c'est finalement une femme qui va recevoir le message. Et pas n'importe laquelle. C'était une femme d'affaires venant d'une ville connue pour ses tissus précieux. Son commerce l'avait sûrement rendue prospère, au point qu'elle puisse accueillir chez elle, au pied levé, comme ça, toute une équipe d'évangélistes. Elle n'était pas juive, mais elle était croyante. Et la conversion d'une notable comme cette femme pouvait signifier de grandes opportunités pour la mission dans la région. Paul et ses compagnons ont dû louer le Seigneur. Ça y est, Dieu a ouvert la voie du succès. Après avoir marché tant de jours sans savoir où aller, après avoir dormi dans les prés et les sous-bois, voilà qu'ils se retrouvaient dans un domaine 4 étoiles avec une femme qui pourrait sûrement financer l'ensemble de la mission en Macédoine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Fort de cette situation avantageuse, les missionnaires ont commencé le travail à Philippe. Mais une autre femme s'est mise sur leur chemin bien différente de Lydie. C'était une esclave, une voyante possédée par des esprits mauvais. Elle s'est mise à suivre la troupe partout dans la ville en se moquant d'eux et de leur foi. Cela a duré plusieurs jours au point que Paul a perdu patience et chassé les démons de la femme. Et c'est là que les choses ont commencé à se gâter. Furieux de voir la femme devenue incapable de leur rapporter de l'argent, les maîtres de l'esclave ont tout de suite traîné Paul et Silas devant le tribunal public de la ville et le procès a viré à l'émeute. Et voilà ce qui est arrivé à Paul et Silas, je lis au verset 22. Les magistrats firent arracher les manteaux de Paul et de Silas et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda au gardien de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et il leur fixa les pieds dans des blocs de bois. La chute a dû être rude, très rude. Eux qui avaient dormi la nuit précédente dans les draps luxueux d'une villa romaine, les voilà dans le quartier de haute sécurité d'une prison, les habits déchirés, le corps lacéré de coups de fouet, les pieds coincés dans des blocs de bois. On peut se demander comment les apôtres ont vécu cette descente aux enfers. Ils avaient reçu une vision, ils avaient obéi à Dieu, les choses semblaient confirmer que c'était la bonne direction, et tout s'était écroulé sans avertissement. Comment expliquer ça? Comment est-ce qu'on aurait réagi? Si j'avais été à leur place, je pense que plusieurs hypothèses d'explication me seraient venues à l'esprit. La première hypothèse, c'est que Dieu est méchant. Il ne m'aime plus. Il ne m'aime pas. Il m'a joué un mauvais tour. Il m'a laissé marcher 600 km avant de daigner me donner une direction pour mieux m'attirer dans un piège. Ou tout simplement, Dieu s'en fout. Il est indifférent à ce qui se passe dans le monde. C'est une première hypothèse. Une explication à chercher du côté de Dieu. C'est sa faute. Si j'étais Silas, une deuxième hypothèse serait que j'ai été fou de suivre Paul. Ou plutôt, c'est Paul qui est fou. Voilà où le mène son zèle. C'est la faute de Paul. Si j'étais Paul, une troisième hypothèse serait que, je me suis trompé. Peut-être que Dieu n'existe pas, après tout. Peut-être que je me suis imaginé toute cette histoire. Ou peut-être que Dieu existe, mais je me suis trompé en pensant avoir entendu la voix de Dieu. Quand j'ai eu ce rêve qui m'a mené en Macédoine, ce n'était pas Dieu qui me parlait. Peut-être que j'avais tout simplement trop mangé la veille et j'ai fait des drôles de rêves. Ou alors j'étais tellement frustré de toute cette marche sans pouvoir évangéliser que j'ai pris mes propres désirs pour les désirs de Dieu. En fait, c'est ma faute. Et si l'explication de ma situation est à trouver chez moi, alors j'ai plein d'autres hypothèses. Si je me retrouve en prison, c'est que j'ai dû pécher quelque part et que Dieu me punit. Peut-être que j'étais trop fier de la conversion de Lydia et je me suis enorgueilli de loger dans le luxe. Je n'ai pas donné gloire à Dieu pour le succès de cette mission. Et donc maintenant, Dieu m'a retiré sa protection. Ou encore, je vais me morfondre dans la culpabilité. C'est ma faute parce que j'ai perdu patience. J'aurais dû agir différemment avec cette femme possédée. J'ai réagi sous le coup de la colère. Et en même temps, quel mal y avait-il à libérer cette pauvre femme de ses démons? Je n'ai fait qu'obéir à Dieu. Donc Seigneur, pourquoi est-ce que tout ça m'arrive? Et hop, je suis reparti dans la première hypothèse et je tourne en boucle comme un disque rayé. Voilà les pensées qui me seraient passées par la tête si j'avais été à la place de Paul. Face au mal, face à la souffrance, notre tendance naturelle, c'est de chercher des explications, des causes et des effets. Si c'est explicable, alors ça soulage, parce que ça nous donne une forme de contrôle. Si on a l'explication, alors on peut faire quelque chose. Mais s'il n'y a aucune explication, alors nous sommes à la merci du hasard, de l'arbitraire, et c'est insupportable. On a besoin d'une forme de sens au milieu du chaos. Alors notre esprit échafaude toutes sortes d'hypothèses, de liens qui pourraient éclaircir le pourquoi. Ce n'est donc pas étonnant si en ce moment, on assiste à une épidémie de fake news et de théories complotistes à propos de la pandémie du Covid-19. De manière plus pernicieuse, on est tenté de donner à nos explications le visage d'un coupable. C'est forcément la faute de quelqu'un. C'est à cause de Dieu, de l'autre. Ou encore, c'est ma faute. Le poids du mal doit nécessairement reposer sur les épaules de quelqu'un, et c'est finalement ce que font les habitants de la ville de Philippe en déversant leur colère sur les missionnaires avec des accusations fausses. Il faut des coupables. Mais revenons à Paul et Silas. On a essayé de se mettre à leur place, on a échafaudé toutes sortes d'hypothèses qu'ils auraient pu se donner pour expliquer leur situation. Mais laquelle de ces explications est-ce qu'ils ont retenue? Le verset 25 nous dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et toute la prison les entendait. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Incroyable. Il semble que les apôtres n'ont retenu aucune des explications qu'on a listées. Pour eux, ce n'était ni la faute de Dieu, ni celle de l'autre, ni leur faute. En fait, ils n'ont même pas cherché d'explication ou de coupable à leur situation. Ce qui importait, c'était de vivre cette situation avec Dieu, tout simplement. Leur lien avec Dieu ne leur donnait pas d'explication à leur situation. Par contre, leur amour pour Dieu les amenait à louer même au fond d'une prison. On pourrait se demander comment avoir une telle force intérieure. Est-ce que Paul et Silas étaient tellement exaltés qu'ils ne ressentaient même pas la souffrance? Je ne suis pas sûr. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul raconte la détresse à laquelle il a été confronté lors de cet épisode. Il dit que le poids de leur souffrance a été si lourd et si insupportable qu'ils ont cru que leur dernière heure était arrivée. Alors, comment comprendre leur attitude dans la prison? Le texte dit qu'ils priaient et chantaient. Je vous propose de faire un petit détour par la lettre d'un autre apôtre, celle de Jacques, chapitre 5, verset 13. Il écrit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il heureux? Qu'il chante des louanges. » Dans ce passage, Jacques invite celui qui souffre à prier et celui qui est dans la joie à chanter. Eh bien, ce que je remarque dans l'histoire de Paul et Silas, c'est que dans leur prison, ils ont fait les deux. Je pense qu'ils ont dû d'abord commencer à prier. Ils ont dit à Dieu toute leur tristesse, la souffrance de leur corps et de leur esprit. Il y avait sûrement des larmes dans leurs mots. Ils ont déposé dans le cœur de Dieu tout ce qui pesait sur leur propre cœur. Et petit à petit, à mesure qu'ils présentaient leur souffrance à Dieu, leurs mots se sont transformés en louanges. Ils se sont donnés du courage mutuellement, en chantant. Ça me fait penser à une autre parole de l'apôtre Paul que l'on trouve dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 19. Il dit « Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, louant le Seigneur de tout votre cœur. » Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques. » Voilà, d'un côté, ces louanges étaient dirigées vers Dieu, mais elles étaient aussi le moyen de s'encourager mutuellement au fond de la prison et de leur souffrance. Donc, lorsque Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, nous invite à être toujours joyeux, à prier sans cesse et à être reconnaissant en toutes circonstances, il parle de quelque chose qu'il connaît, quelque chose qu'il a vécu, il parle d'expérience. Ce n'était pas du déni de réalité, ce n'était pas de l'insensibilité ou de l'exaltation. C'était l'expression de sa confiance dans la bonté de Dieu. Ce Dieu qu'il savait toujours avec lui, même au milieu d'une épreuve dont il n'avait pas d'explication. En fait, ces attitudes étaient un besoin pour lui, pour garder un sens au milieu des souffrances. La suite de l'histoire est étonnante. Je lis au verset 26, « Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. » C'était comme si Dieu s'était mis à battre du pied sur le rythme des chansons de Paul et Silas et ça a provoqué un tremblement de terre qui a libéré tous les prisonniers. La suite de l'histoire raconte que Paul va empêcher in extremis le gardien de prison de se suicider parce qu'il pensait que tous les prisonniers s'étaient échappés. Ce dernier va se convertir avec toute sa famille, il va accueillir les missionnaires chez lui pour les soigner et les nourrir, et Paul et Silas vont finalement quitter la ville avec les excuses officielles des autorités. Tout est bien qui finit bien. Sauf que Paul connaîtra plus tard de nouveau la persécution, les coups, la prison, et il mourra finalement exécuté. Et pourtant, tout au long de sa vie, ses lettres témoignent de sa joie, de ses prières et de ses louanges. Voici le fruit de la présence de Dieu dans sa vie. Alors peut-être que le texte que j'ai reçu n'était pas si inapproprié dans la période que nous vivons. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce qui est la volonté de Dieu pour vous, dans votre vie, avec Jésus-Christ. Amen.